Bonjour à toutes et à tous. Je reprends aujourd'hui sur ce que je vous disais la semaine dernière, c'était le rapport entre l'art et l'émotion. Alors, il s'agit d'une sorte de consensus contemporain où l'art, la finalité de l'art, serait de procurer de l'émotion. Alors, on confond peut-être ou on généralise l'art avec celui qui est le plus important aujourd'hui, le cinéma, qui, effectivement, par les récits, peuvent suggérer de l'émotion. Mais en fait, l'art est beaucoup plus large dans toutes ses formes et ses expressions, et on peut dire aussi son universel historique. Donc, me semble-t-il, que non seulement ce terme d'émotion est restrictif, mais je pense qu'il est aussi un malentendu. Bon, je vous avais parlé la semaine dernière du malentendu de la tradition du nouveau, pourrait-on dire, c'est-à-dire de cette fuite en avant, de toujours penser qu'il faut de la recherche, du changement en art et que c'est la seule clé et qu'il s'agissait simplement de copier une époque qui était une époque de fracture, une époque de changement de société. Bon, je reviendrai sur ce point au cours de l'émission, mais donc ça c'était le premier malentendu. Alors le deuxième malentendu serait effectivement cette finalité de procurer de l'émotion. Alors, sans que l'on puisse être contre cela, mais rappelons-nous que l'émotion est quelque chose qui est une manifestation individuelle. Il ne s'agit pas, l'émotion collective, c'est toujours quelque chose d'artificiel. Donc, ça renvoie aussi à cette individualisation qui pourrait dire « il s'agit de mon sentiment, ça ne regarde personne d'autre, et en fait ce n'est pas aussi partagé par tout le monde, non, on en revient dans la sphère individuelle avec aussi ce qui va découler de cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'universel, et chacun suivant ses goûts, voilà, c'est ce que l'on entend dire, il y a des goûts et des couleurs, on ne peut pas critiquer l'art parce que chacun ses goûts. » Alors, il est évident que ceci est très dérangeant puisqu'en fait, ça nous empêche d'avoir justement le sens de partage collectif, qui est le fondement d'une culture et le fondement d'une civilisation, et donc les identités, même si ce mot aujourd'hui est un terme qui est suspect, mais il s'agit bien de cela, il s'agit d'identité culturelle dans laquelle on se reconnaît. Alors, parler d'identité culturelle ne veut pas dire que notre identité est supérieure à d'autres, qu'il y a de ce fait des hiérarchies. Je vous avais parlé justement du fait que il s'agit de vases communicants et la deuxième chose que l'on peut demander à l'art au-delà de ses identités culturelles, c'est justement que ces identités culturelles vont vers un universel. C'est-à-dire qu'en fait, les différences visibles, on peut dire, entre des frontières culturelles, peuvent être partagées par d'autres et à travers l'espace et aussi à travers le temps. Le fait que nous trouvions dans notre civilisation, on peut dire, jusqu'au XXe siècle, comme des choses qui étaient les plus abouties, c'est-à-dire la sculpture grecque et la sculpture romaine qui va influencer toute l'époque classique jusqu'à une période très récente, il est évident que ça se passe indifféremment de ce qu'étaient les rituels, les religions de ses propres cultures qui sont tout à fait différentes des nôtres. Alors, la rupture du XXe siècle, c'est qu'effectivement, le changement de société ouvre vers d'autres horizons et d'autres cultures, et notamment celle de l'Afrique, et je m'inscris en faux du fait de penser que c'est justement parce que on a copié les œuvres africaines que l'art moderne arrive. Non, en fait, il s'agit à la fois d'une grande créativité de l'Afrique et aussi en parallèle d'une grande créativité qui est celle de ce passage du 19e siècle au 20e siècle. Et il se trouve effectivement qu'il y a une coïncidence de forme, une coïncidence même de valeur, parce que il y a des changements de société qui, malgré les différences très très fortes, on est dans un même, on peut dire, champ culturel. Donc, je pense qu'il n'y a de ce côté-là pas de vainqueur, pas de vaincu, et il n'y a pas d'appropriation culturelle, il y a simplement des rencontres heureuses, comme il y a dans l'histoire des hommes, où des cultures fabriquent des formes assez semblables tout en étant, les unes vont être au Moyen-Orient et les autres vont être en Amérique du Sud avant Christophe Colomb, elles n'ont jamais communiqué et elles vont faire des formes semblables, par exemple les pyramides, mais un grand nombre aussi de formes graphiques, de sculptures, et cela, je pense, c'est à la fois la grande diversité de l'humanité et aussi sa richesse. C'est ce qui fait l'intérêt, justement, de l'histoire de l'art. Si on peut parler d'une histoire, on peut parler plutôt des comparaisons, justement, entre des choses qui n'obéissent pas à une sorte d'évolution historique, mais qui sont en parallèle et avec à la fois une complicité des différences et à la fois avec ses unités. Donc, je reviens à mon histoire d'émotion qui me paraît traduire, on peut dire, j'avais parlé de dolorisme, mais en tout cas, c'est assez le victimaire de notre époque. On est dans quelque chose qui doit être... Alors, l'émotion n'est pas forcément douloureuse, mais en fait, il s'agit de cela tout de même. Donc, on éprouve une sorte de bonheur coupable, quelque part. Alors, je pense que là, c'est quelque chose qui est assez fâcheux, parce que on a, me semble-t-il, perdu la possibilité de parler justement des joies, de la jouissance que peuvent proposer, que peuvent nous donner les œuvres d'art, et on peut le voir aussi à travers les paroles de l'artiste, le rôle de l'artiste et aussi les œuvres réalisées. Je parle par exemple de peinture ou de sculpture, puisque c'était les arts plastiques qui étaient le fil conducteur de ces dernières causeries, et on a effectivement une série de sujets morbides qui vont prédire. Alors, on dit l'artiste, c'est une vigie. Alors, il y a tout un sentimentalisme, on peut dire, romantique, qui évidemment ne tient pas la route par rapport à l'histoire, parce que l'histoire de l'art est toujours une histoire d'une relation d'un commanditaire, d'un exécutant, et aussi de finalité de l'œuvre. Donc ça correspond à l'époque et ça n'a rien d'universel. Donc ce rôle de l'artiste qui serait une vigie, qui prévoirait l'avenir et qui nous mettrait en garde contre les douleurs du monde, je pense qu'on se trompe dans les rôles. En fait, il s'agirait plutôt d'ailleurs du rôle du politique de prévoir cela et pas de l'artiste. Alors, on a inversé les choses, c'est-à-dire que les politiques se veulent une sorte de thaumaturge, de on peut dire avec le Caire aujourd'hui, qui vont coucouner les populations et puis qui vont sous-traiter à l'artiste ce rôle justement d'être la vigie qui nous annonce les dangers. Bon, tout ça me paraît assez niais et assez ridicule. Alors, les émotions, effectivement, peuvent être de divers ordres. Par exemple, la satisfaction de la distinction comme dirait Bourdieu, c'est-à-dire cette distinction qui fait que les classes qui sont entre guillemets éduquées tout près des productions culturelles, elles ont à travers l'art des émotions qui font qu'elles se distinguent du menu peuple. Donc il y a certainement dans cette reconnaissance d'entre soi une sorte d'émotion. Alors, quand on entend, par exemple, je vais revenir sur ce que je vous disais sur Pierre Soulages, sachant aussi que ça va agacer pas mal des auditeurs, certainement parce que c'est un Occitan, parce que le musée de Rodez n'est pas très loin et qu'il y a des implications locales. Mais enfin, quand je vois la cote chaque mois qui est en train de monter, je crois qu'on est à maintenant 800 000 euros pour des toiles, c'est-à-dire qu'on a une inflation extraordinaire qui est due justement à ces phénomènes assez artificiels, et quand les gens disent bon qu'ils ont les émotions de voir devant l'autre noir, vous me permettrez d'être sceptique. Je pense qu'on a des émotions du snobisme dont je vous parlais, de se reconnaître justement comme susceptible d'avoir ce partage culturel, et aussi peut-être l'émotion de voir le chiffre de du prix des œuvres. Ça aussi, ça doit faire partie des émotions actuelles, mais sachant que si on peut critiquer les enrichissements dans certains secteurs de l'industrie notamment, bah ceux-là, effectivement, ils sont, on peut dire, ils sont bénéfiques ou ils sont admis. Voilà. Donc, on va marquer une pause musicale, puis nous allons reprendre.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice, sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. Was told when I get older all my fears would sing. Now I'm insecure and I care what people think. Blurry face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell would take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown and stones, but off a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and tree ourselves, we always take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. Blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Dream of outer space, now they're laughing at our face, saying wake up, you need to make money. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Dream of outer space, now they're laughing at our face, saying wake up, you need to make money. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang.
Je vais donc reprendre sur les définitions de l'art. Alors, c'est un sujet philosophique et je ne vais pas rentrer dans toutes les versions. J'en serais d'ailleurs bien incapable de tous les philosophes. Mais tout le monde, je pense, a entendu parler de la définition, on peut dire, de Platon qui associe l'art à la beauté et à ce qui est bon et ce qui est le bien. Donc il y a la vérité, il y a aussi la relation de la beauté qui est liée à l'amour, c'est-à-dire que c'est à travers l'amour et l'idéalisation du corps parfait que l'on a les sentiments de la beauté. Alors évidemment, ça ne résout pas toute la question du beau, mais je trouve cette association assez intéressante parce que elle rejoint les éléments dans la proportion, le rôle du corps humain et dans les tracés régulateurs. Vous connaissez toujours l'homme de Léonard de Vinci qui est le signe de Manpower et des images assez connues par rapport à cela. Donc cette histoire de géométrie est assez séduisante et la liaison de l'amour est aussi liée à ce que je vous disais par rapport à non plus l'émotion qui peut être aussi négative mais qui est sur un élément de bonheur et de jouissance qui me paraît être l'essentiel de l'art. Même si les sujets qui sont ceux de l'œuvre d'art ne sont pas forcément des sujets heureux. Tout le monde, ne serait-ce que, par exemple, dans le christianisme, la crucifixion, effectivement, ce sont, au-delà de l'image, il y a une scène de torture et une mise à mort et des choses qui sont cruelles. Mais une grande partie de l'art, non seulement liée à la religion, mais il n'y a rien de spécial aujourd'hui dans les œuvres d'art, mais justement, le rôle de l'œuvre d'art, c'est cette transmutation par la beauté qui fait que on a d'une part le sujet représenté et sa propre lecture pour, on peut dire, la consommation sociale de l'époque. Et puis, il y a ce qui demeure, même quand le sujet a moins de prégnance et d'importance. Par exemple, nous sommes d'une société qui est moins religieuse que ce qu'était celle de nos ancêtres des époques précédentes, mais nous sommes touchés par la Passion du Christ de Jean-Sébastien Bach en musique, et comme aussi tous les tableaux de la Renaissance et les sculptures de la Crucifixion, etc. Donc, ou la Pietà de Michel-Ange, par exemple, qui nous permet, au-delà de la scène représentée textuellement, d'avoir cet universel de la mort, de la maternité, en fait, qui nous renvoie à notre propre destin humain. Donc, il faut sortir effectivement du sujet lui-même et de voir comment justement l'art atteint l'universel parce que il touche ce qui est fondamental chez nous et d'une certaine manière le rend, on peut dire, transfiguré et ne reste pas autrement. Si il n'y avait pas cette transfiguration de l'art, eh bien le meilleur musée du monde, ben ce serait le musée Grévin, parce qu'effectivement il représenterait les choses telles qu'elles sont. Donc il y a de ce fait toujours un pas de côté, de déplacement, et on peut dire c'est le plaisir esthétique du beau. Alors effectivement, là on est devant une question qui est à la fois fondamentale et probablement je ne peux pas dire sans réponse, mais en tout cas, qui bute toujours vers des explications diverses. Et c'est le rôle d'ailleurs de toute critique artistique, justement, cette articulation qui fait qu'il y a des œuvres médiocres et d'autres qui sont des œuvres extraordinaires qui vont franchir l'universel. Et ça, ça fait partie, je pense, des grands mystères qu'on est obligé à la fois de commenter en permanence, mais sachant qu'il y a quelque part quelque chose qui nous échappe, qui fait qu'il y ait des différences fondamentales entre, par exemple, la musique de Mozart et de Bach et celle de leurs contemporains, même si sur un plan stylistique les choses sont très très semblables, mais il y a quelque chose de différent et qui est quelque chose d'indicible et qui peut ne qui ne sera pas mis aussi dans un ordinateur mais qui crée aussi peut-être un mystère qui doit demeurer. Alors on pourrait appliquer cela à peu près autant au peintre qu'au sculpteur qu'à l'architecture. Il y a à un moment donné des œuvres justement qui se séparent des autres. Mais essayons de serrer plus près cette définition de l'art, non pas comme une activité qui serait indépendante de l'humain et on peut dire qui aurait été une invention à un moment de l'histoire de l'humanité, mais trouvons la racine beaucoup plus, on peut dire, profonde, beaucoup plus réelle entre l'humain et l'art. En fait, l'explication, me semble-t-il, est d'une nature beaucoup plus étroite qu'un simple accident de l'histoire qui serait arrivé, par exemple, on en a parlé dans les grottes ornées, et après qui aurait les suites jusqu'à l'époque actuelle. Il s'agit, à mon sens, d'un fait majeur qui est le fait du passage de l'humanité, et donc c'est pas l'homme qui invente l'art, mais on pourrait dire aussi que c'est l'art qui invente l'homme, c'est-à-dire que c'est au moment où le langage se crée, c'est-à-dire le langage qui est le logiciel dans le cerveau de l'humain qui lui permet de penser, c'est-à-dire il fallait le langage comme un logiciel par rapport à un ordinateur. S'il n'y a pas de logiciel, il y a effectivement ce qu'on appelle software et hardware. Il y a justement s'il n'y a pas ce software qui permet l'articulation, eh bien la machine elle sert à rien. Donc il y a le cerveau qui existe, mais il n'y a pas le logiciel. Au moment où le logiciel se met en place, c'est-à-dire le langage, et je pense que ce n'est pas un apprentissage qui se met sur des siècles, mais il y a un moment donné où il y a cette conscience de l'humain. Et au même moment, il y a cette communication avec soi-même, et évidemment, je pense, dont je suis de Descartes, mais c'est aussi, de ce fait-là, la communication avec l'autre que l'on reconnaît comme identique à soi. Et donc, de ce fait, de cette création du langage, qui n'est pas uniquement des signes, et qui est justement cette combinatoire avec les symboles, qui va s'exprimer dans les différentes langues, qui va s'exprimer aussi, par exemple, par la langue des signes des souris muets, qui va aussi s'exprimer à travers l'art. Alors, il va s'exprimer à travers les arts visuels, il va s'exprimer aussi à travers la parole, il va s'exprimer à travers le chant, à travers donc la musique, et à travers le corps, à travers la danse. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les formes du langage et les formes d'art qui interagissent. Donc c'est quelque chose qui est indissociablement lié au fait humain et qui n'est pas une invention ou une expression comme peut être les outils ou même l'écriture qui est une forme technique mais qui n'a rien à voir d'essentiel comme le langage qui lui comme je disais, le langage ce n'est pas que les langues, c'est justement cette possibilité de créer avec des mots des concepts qui nous permettent que la pensée peut s'élaborer. Donc, à partir de cette définition beaucoup plus large, on peut comprendre ce que je vous disais tout à l'heure sur cet universel, et c'est bien de cet universel dont il s'agit. Donc, pour revenir à ce passage de civilisation positionné entre le 19e et le 20e siècle, c'est bien de là que découle l'art moderne dans toutes ses expressions, qu'il soit en architecture, des formes beaucoup plus simples, cubistes, pourrait-on dire, par rapport aux sculptures, aux ornements et aux rapports qui étaient totalement différents avec la peinture et la sculpture et de l'architecture précédente. Et on a donc une rupture, on a une rupture aussi en peinture avec les peintures cubistes, avec les peintures abstraites, avec une expression totalement différente par rapport justement au réalisme des époques précédentes. Et on a aussi les mêmes choses en sculpture, où on a effectivement des sculptures aussi qui ne seront pas, comme je vous disais, le musée Grévin, c'est-à-dire ne vont pas tendre au réalisme, mais vont avoir des altérations de la forme, et en cela semblables aux formes d'autres civilisations que l'on tenait avant comme primitives, mais que nous sommes devenus, c'est-à-dire nous revenons à d'autres formes d'expression. Donc il n'y a dans ce sens-là pas de progrès, on n'est pas dans la science, il y a simplement des périodes avec des formes qui correspondent aux formes de société. Alors en musique également, on a une rupture qui va se traduire dans la musique française par exemple, avec Debussy, avec Ravel, mais surtout la rupture essentielle, ça va être le jazz. Et là aussi, c'est pas un hasard que ça vienne des descendants, des esclaves amenés en Afrique des États-Unis, et on se retrouve avec un continuum culturel, on peut dire, autour de l'Afrique, et on a avec le jazz une musique qui est complexe, mais qui casse les, on peut dire, les contours de la forme classique, c'est-à-dire comme on va avoir dans le récit, on va avoir dans les formes plastiques, et on va, par exemple en architecture, on va être sur des continuités en hauteur et en longueur qui vont rompre justement avec l'ordre classique où les choses étaient limitées par des formes et des agencements symétriques qui correspondaient justement à un vocabulaire bien précis. Alors, l'exemple du jazz est tout à fait intéressant parce que on a, on peut dire, une sorte de musique de l'oralité qui va remplacer la forme qui était une forme bien définie de la symphonie, par exemple, qui est découpée en tranches. Et là, on va avoir une forme avec une grande retour vers l'improvisation. Alors, l'improvisation, ça existait aussi dans la musique baroque, mais là aussi, la musique classique l'avait quelque part, l'avait supprimé, et on rejoint une rupture qui ne va pas être limitée justement à la partition, à la forme du livre, à la forme rectangulaire, mais une forme beaucoup plus, on peut dire, souple, circulaire, et aussi dans le temps, qui n'a pas... ce découpage de la période classique. Par exemple, dans le jazz, alors bien sûr, il y a dans le jazz, dans les premiers temps, mais c'est lié à l'industrie à la technique du disque et du format. Mais dans la réalité des concerts, un concert peut commencer et peut durer des heures avec des échanges d'improvisation, et donc on n'est plus dans le découpage. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas complexe, parce qu'on est au contraire d'une grande complexité. L'improvisation à plusieurs est quelque chose qui est extrêmement complexe. Donc Il ne s'agit encore une fois, il faut rompre avec un schéma de primitif, par exemple, et voir justement des choses qui sont qui se croisent, qui remplacent certaines formes. Et évidemment, à travers le jazz, il y a les musiques qui sont le rock, le rap, enfin toutes les musiques modernes, qui est la pop musique qui découle du jazz, qui est la matrice fondamentale de la musique du XXe siècle et qui va aussi influencer la musique dite, on peut dire, noble classique. Donc, vous voyez, le fait de ce changement de siècle, c'est un changement d'époque, mais c'est un changement qui est un changement de civilisation, et nous reviendrons avec, dans les prochaines échanges, avec justement le rapport qu'il y a avec l'architecture et avec la forme urbaine, puisque c'était le cœur de notre propos. Et on pourrait aussi, je crois, la semaine prochaine, on va revenir sur quelque chose qui est beaucoup plus architectural, que j'avais déjà, dont j'avais déjà parlé, qui était le gothique, le roman et le passage aussi de notre époque à la modernité. Bien voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.